Alors, je vais faire une petite présentation déjà rapide de nos trois intervenantes et elles vont ensuite développer un petit peu qui elles sont et je vais aussi vous dire quelle était notre idée en organisant cette table ronde. Donc, nous avons à cette table Julie Sarah Gluckstein, Marine Santos et Lisa Douteau, qui sont toutes les trois des jeunes enseignantes. Donc leur point commun, c'est qu'elles sont toutes les trois de jeunes enseignantes qui ont entre 1 an et 6 ans d'expérience dans l'académie, donc dans l'académie de Lyon en tant que professeur des écoles. Et d'ailleurs, je remercie au passage leurs IEN de circonscription d'avoir bien voulu les autoriser à participer à cette table ronde, voire à la formation en entier. Et toutes les trois, elles ont été à un moment donné en lien avec Marie-Odile ou moi-même, soit à travers leur formation initiale, donc on en reparlera, dans le cadre du master des métiers de l'enseignement, ou par l'intermédiaire de la certification de français langue étrangère et seconde pour l'une d'entre elles. Elles ont aussi eu plusieurs contacts par l'intermédiaire du séminaire ELS que j'ai présenté aussi ce matin. Et donc, l'idée de cette table ronde, elle est venue essentiellement suite à des jurys de soutenance. Ça nous est arrivé, ça nous arrive encore, de faire des jurys de soutenance de mémoire professionnelle dans le cadre de la formation initiale. Des jurys qui sont mixtes entre chercheurs et professionnels de l'éducation. Et notamment des jurys où on était ensemble avec Marie-Odile ou avec d'autres collègues, notamment du CASNAV, sur des sujets, des thématiques qui nous intéressent et nous rassemblent. Et c'est par l'intermédiaire de ces jurys de mémoire professionnelle qu'on s'est rendu compte, enfin qu'on le savait, mais qu'il fallait aussi le diffuser, qu'il y a des jeunes enseignants qui ont des choses à partager et qui peuvent faire justement personne ressource par rapport à ce qu'ils ont pu développer dans leur expérience, même si elle est toute jeune, voire dans leur recherche qu'ils ont pu développer pendant leur master. Donc l'idée, c'était de leur permettre de témoigner que même s'ils sont jeunes dans leur expérience, ils ont un témoignage à apporter, qu'il soit personnel ou professionnel, une expérience du plurilinguisme. Et parce qu'elles ont été sensibilisées, ou même plus que sensibilisées, qu'elles ont pu travailler sur ces questions dans le cadre de leur formation et aussi sur le terrain, en classe, ou par une réflexion plus approfondie. Alors avant de décliner le titre de cette table ronde, l'expérience du plurilinguisme comme ressource sur le terrain, je vais vous lire une petite introduction que j'ai lue il y a très peu de temps, puisque c'est une étudiante qui est actuellement en Master 2, puisqu'ils en sont en ce moment à donner leur premier jet, leur première page de rédaction de mémoire. Donc elle se reconnaîtra certainement parce qu'elle est dans la salle. Et je trouve que ça pose vraiment bien ces questions-là. Donc le début de son mémoire, elle dit « Mon tout premier stage, en première année de master à l'école de Vaux-en-Velin, m'a permis de m'intéresser au sujet des élèves allophones en petite section. En effet, je me trouvais dans une classe de petite section, en zone d'éducation prioritaire. Un jour, un élève d'origine pakistanaise, nouvellement arrivé dans la ville, ne connaissait ni l'environnement de l'école, ni la langue de scolarisation qui l'entourait. De ce fait, chaque matin, il appréhendait la séparation avec sa mère. C'était le déchirement total. Pour pallier cela, l'enseignant décida de prendre en compte l'autre langue de l'élève. Il incita la famille à lui parler dans sa langue d'origine très fréquemment et à ne pas couper le lien entre l'élève et sa langue familiale. Cette approche pédagogique de l'enseignant a bouleversé mes représentations initiales. Après un entretien avec celui-ci, j'ai mieux compris ses stratégies pour une meilleure intégration de l'élève. Pourtant, autrefois à sa place, j'aurais indiqué aux parents de tenter de parler français chez eux pour que la langue française de l'école se retrouve dans la sphère familiale. Ainsi, ce dilemme professionnel s'est posé à moi et il m'a donné envie de me questionner plus profondément sur le statut des élèves allophones à 3 ans. L'objectif étant de trouver la meilleure attitude pour l'intégration de ces élèves qui entrent pour la première fois à l'école. j'ai trouvé que cette introduction illustrait bien le fait que dès un premier stage, puisque c'était lors de son premier stage en Master 1, dès son premier stage de formation initiale, elle a pu être en contact avec un constat professionnel qui lui a donné envie d'approfondir les choses, ce qu'elle fait lors de son M2. Alors, l'expérience du plurilinguisme comme ressource sur le terrain. L'expérience du plurilinguisme, c'est-à-dire avoir été en contact avec plusieurs langues soi-même durant sa vie, son enfance, des séjours prolongés à l'étranger, et ou avoir aussi dû gérer des élèves eux-mêmes en contact avec plusieurs langues dans leur vie. Donc des élèves plurilingues souvent, des élèves parfois nouvellement arrivés, et des élèves allophones souvent. Donc l'idée, c'était de témoigner de l'utilité, de l'éclairage qu'apporte cette expérience personnelle et professionnelle, et pour montrer en quoi ça peut constituer une ressource sur le terrain, à la fois dans sa classe, mais aussi une ressource à partager avec ses collègues. Alors, toute petite présentation brève de nos trois invités. Julie Sarah, qui est à côté de moi, qui a 31 ans, qui a une maîtrise en sciences de l'éducation et un master 2 en didactique du français langue étrangère. Elle a eu le CRPE en 2013. Elle a eu l'occasion de faire un remplacement en UPE2A l'année dernière. Et elle est actuellement T2 dans le pays de Gex, en CM2 et CE2. À côté d'elle, Marine, 27 ans, une licence en langue, en anglais, qui a eu le CRPE en 2014. Donc un master métier de l'enseignement. Et qui a été contractuelle en responsabilité en Master 2 en petite section, puis en CP à Vénissieux pendant son année de stage. Elle est actuellement T1 en ULIS, trouble de la fonction cognitive, au Minguette à Vénissieux, à l'école Léo Lagrange. Puis Lisa, 28 ans, qui a une licence en sociologie, qui est issue de l'ex-formation IUFM avec le CRPE en 2010, et qui a été sur le terrain directement, donc sans formation, et qui a choisi de faire un Master 2 ensuite en éducation à Lyon 2. Elle est professeure des écoles dans sa sixième année à l'école Louis Pergaud à Lyon dans l'8e, en REP+, en classe de CE2. Donc ce qu'on avait envie de savoir et qu'on leur a posé comme question, c'était qu'elles nous disent un petit peu qu'est-ce qui, dans leur parcours, même si ce sont des jeunes enseignantes, alors que ce soit leur vécu et notamment leur biographie langagière, leurs études, leur formation, leur stage et éventuellement leur expérience diverse sur le terrain, qu'est-ce qui leur a permis d'être sensibilisés à la question de l'accueil des enfants allophones et qui les aide sur le terrain de l'école. Donc chacune va pouvoir se présenter un petit peu plus et dire quelques mots sur ces éléments-là.
Moi, je vais refaire écho par rapport à ce que l'extrait que tu viens de lire, parce que pour moi, ça a commencé très tôt dans ma vie, ce questionnement-là. Ma mère est allemande, mon père est français. Ma mère nous a parlé à mes frères et sœurs et moi en allemand quand on était tout petit. Et quand mon frère aîné est rentré à l'école maternelle, les enseignants lui ont demandé d'arrêter de nous parler allemand parce que ça allait nous freiner dans nos apprentissages. Et ce qu'elle a fait. Donc moi, à un an et demi, j'ai aucun souvenir de ma mère me parlant allemand, mais dans ma première année de vie, elle m'a parlé que allemand. Et après, elle m'a parlé uniquement en français, comme mon père. Et donc moi, j'ai appris l'allemand très tardivement quand je suis rentrée au, enfin c'est tard pour moi, quand je suis rentrée au collège et j'ai appris l'allemand à l'école. Et c'est une question, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu interrogée, même quand j'étais donc enfant. Puisque j'avais des papiers allemands, des papiers d'identité allemands, mais en même temps, je parlais pas cette langue. Quand même aujourd'hui, à l'heure actuelle, je parle bien, j'ai un bon niveau d'allemand, mais quand je parle cette langue, on entend tout de suite que je suis française, j'ai un accent que je pense que je ne perdrai jamais. Ça fait partie de mon identité, mais donc cette question entre école, langue, l'influence que l'école peut avoir sur notre identité culturelle, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément questionnée. Et qui me questionne toujours et qui m'oriente un petit peu dans mes recherches et dans ma pratique enseignante. Est-ce que je parle de mes recherches maintenant ou...
Oui, tu peux.
Ouais. Ouais. Donc, comme Nathalie vous l'a dit, j'ai effectué une licence de sociologie. La dernière année de cette licence, je l'ai effectuée à Montréal, où là, j'ai vraiment découvert comment une ville pouvait être à la fois plurilingue et multiculturelle. Puisque là-bas, c'est extrêmement rare de croiser une personne qui parle, qui n'a pas deux ou trois langues qu'il utilise quotidiennement. Et ça m'a beaucoup interrogée sur ces enfants qu'on a en France qui parlent, qui sont eux aussi plurilingues, mais qui, dans leur scolarité, sont exclusivement monolingues. On travaille avec eux uniquement sur la base du français. Et c'est quelque chose qui, voilà, m'a beaucoup questionnée. Et c'est pour ça que j'ai décidé, après avoir eu le concours de professeur des écoles, de m'engager dans une recherche sur le plurilinguisme. Et donc pour ça, je suis partie à Quito, où j'ai effectué un stage dans une école qui a pour principe de scolariser des enfants qui sont issus d'une minorité quechua, qui parlent quechua pour la plupart avec leur famille, et qui à l'école vont retrouver cette langue-là, mais aussi l'espagnol. Et donc c'est une scolarisation qui se fait dans deux langues, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup apporté, et que aujourd'hui encore, j'essaye de réinvestir toutes ces questions qui m'ont nourrie, je réinvestis dans mon travail au quotidien. Voilà.
Ok, merci. Marine.
C'est bon, tout le monde m'entend. Du coup, moi, pour un petit peu revenir sur comment est-ce que j'ai fini par arriver dans tous ces questionnements de scolarisation des enfants qui ont un capital plurilingue. Moi, je pense que c'est arrivé assez tôt parce que, pareil, je suis issue d'une famille qui est un peu multiculturelle, espagnol, marocain, tout ça. Et puis au collège, je suis partie à l'étranger pour être scolarisée à l'étranger. Je suis repartie au lycée. Donc assez jeune, je me suis retrouvée en situation d'immersion dans un pays où je connaissais pas spécialement la langue. Donc comment est-ce qu'on arrive à s'intégrer aussi par la langue, par la culture. J'ai laissé ça en plan pendant très longtemps jusqu'à mon master, en fait, où quand il a fallu choisir un sujet de recherche, c'est venu assez naturellement. Je pense que c'était toujours dans un petit coin de ma tête. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage, d'aller travailler avec une classe rome, uniquement rome, ma toute première année de master. C'est une classe très particulière où, en fait, c'était sur une année d'élection. Donc, il y avait eu des problèmes politiques où le maire n'avait pas voulu que ses élèves soient dans une école. Donc, ils avaient été détachés d'une école. Donc, en gros, ils étaient dans une ancienne école qui avait été réaffectée en commissariat. Donc, du coup, pendant un an, j'ai pu observer... une classe de Roms, donc que des Roms, avec des enseignantes qui n'avaient pas le concours. Et donc, c'est plein de questions sont venues, forcément, sur comment est-ce que ces élèves vont rentrer dans une culture scolaire, comment est-ce qu'ils vont réussir à apprendre une langue alors qu'ils ne sont pas vraiment en immersion. Parce qu'ils étaient juste entre eux. Finalement, les seules personnes qui parlaient français autour d'eux, c'était les enseignants présents dans la salle. Donc plein de questions comme ça se sont un peu imposées à moi. Et même si j'avais déjà cette idée, ça a quand même bien mûri sur des questions d'interaction, d'identité. Du coup, comment est-ce qu'un enfant va se construire par la langue, par la culture, par l'immigration, par l'école, qu'est-ce que l'école française elle apporte à ses enfants, qu'est-ce que les enseignants vont apporter à ses enfants, etc. Et puis la deuxième année de master, j'ai du coup, je me suis lancée dans mon mémoire et j'ai pu observer pendant un an un élève portugais qui était arrivé en France juste avant la rentrée. Et du coup, c'était très intéressant de voir justement comment... à travers les interactions qu'il avait avec les autres élèves, avec les enseignants, avec ses parents, comment il s'est construit petit à petit en tant qu'élève de l'école française, élève tout court, comment est-ce qu'il est rentré dans la langue française, tout en rentrant dans le langage, parce qu'il était en petite section, mais j'ai pas dit, il était en petite section, donc il est arrivé, il avait 3 ans, donc il y avait encore plein de choses à construire. Et donc, mon mémoire s'est construit autour de ça, donc du rôle des interactions, dans le processus de construction langagière, dans le processus de construction identitaire. Et c'est une question qui reste maintenant un peu mon fil rouge dans mon enseignement. Donc maintenant, je travaille en Ulysse École. Et justement, c'est toutes ces questions, je m'en sers au quotidien parce que je travaille en REP+, dans un milieu où tous les enfants, sans exception, ont plusieurs langues à leur actif. Ils sont pas allophones du tout, ils sont pas primo-arrivants du tout, mais tous ont plusieurs langues à leur actif. Et donc moi, mes questionnements, c'est un peu tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cette ressource, enfin ce qu'ils ont eux, c'est la ressource plurilingue, pour faire avancer leur apprentissage, vu que c'est des élèves en difficulté, qui sont pour certains porteurs de handicap, etc. Donc c'est bien là qu'on voit qu'on fait toutes les recherches que j'ai pu faire avant, le mémoire, ça a vraiment construit petit à petit une personnalité pédagogique qui va vraiment dans un sens qui est le sens de comment est-ce qu'on prend en compte le plurilinguisme à l'école et surtout prendre conscience que énormément d'élèves sont plurilingues, pas forcément bilingues au sens où on l'entend, on va chercher la définition en dictionnaire, mais que énormément d'élèves, surtout dans des milieux défavorisés, sont plurilingues. Donc,
Ok, merci. On poursuivra cette question juste après. Je donne la parole à Julie Sarah.
Très bien. Donc, moi, je me suis intéressée au plurilinguisme des élèves, tout simplement parce que, dans un premier temps, je suis plurilingue, je suis bilingue espagnole. J'ai grandi au Mexique. Quand je suis arrivée au Mexique, je ne parlais pas du tout l'espagnol et j'imaginais pas que je pouvais l'apprendre comme ça. Et donc j'étais en situation d'être une élève, je dirais semi-allophone, parce que je suis arrivée dans une école française. Donc quand même, la scolarisation se faisait en français, c'était ma langue, j'étais pas vraiment perdue. Mais toutes les interactions qu'il pouvait y avoir avec mes pairs étaient en espagnol. Et c'est là où je me dis que j'ai construit un bilinguisme par rapport à mes échanges avec mes pairs, et que ce n'est pas suffisant. Je dirais qu'on peut pas apprendre une langue uniquement par les échanges avec les pairs, et que c'est d'où l'importance des enseignants et du rôle de l'enseignant dans ce qu'il propose aux élèves, et des échanges privilégiés qu'il peut avoir avec les élèves allophones. Excusez-moi. Outre le fait que j'ai vécu au Mexique, j'ai travaillé dans l'animation des coups de pouce clés qui mettaient en place de la lecture et écriture pour les enfants des familles qui sont démunies face à la culture scolaire. Et c'est là où on dit on est plurilingue, et on est plurilingue même quand on est uniquement francophone, dans le sens où on a notre langue française de la maison et notre langue française de l'école. Le français de scolarisation, c'est encore une nouvelle langue. Et dans ces animations coup de pouce, on travaillait avec les familles qui sont exclues un peu de notre système scolaire. Ce qui fait que je me suis orientée par la suite dans une formation en français langue étrangère pour parler aussi avec ces autres exclus de notre système scolaire qui étaient des personnes venant de l'étranger, les élèves allophones. J'ai aussi travaillé en médiation culturelle où j'accueillais un public albanais dans la bibliothèque, dans le cadre de la culture partagée, de notre culture écrite, et essayer de leur donner accès au code de ce milieu-là. Actuellement, je suis dans le pays de Gex en tant que professeur des écoles. C'est ma deuxième année. Dans le pays de Gex, on a environ 40% d'élèves plurilingue dans les classes. Donc il y a les élèves allophones qui arrivent, qui sont sur leur première année, et il y a tous les élèves qui parlent une variété de langues vraiment très intéressantes, parce qu'on a des langues slaves, on a les langues arabes, on a des langues asiatiques, on a vraiment une multitude de possibilités. Et du coup, c'est pas une problématique d'une langue, c'est toujours une problématique de toutes les langues, et comment intégrer tous ces enfants avec toutes leurs différences dans la classe. et leurs différences, pas uniquement linguistiques, mais aussi leurs différences vis-à-vis des attentes qu'on a, nous, à l'école. Parce qu'on a des enfants, pas forcément tous immigrants, mais des enfants qui arrivent, qui sont de familles proches ou moins proches de l'école. Des langues, c'est pas uniquement les langues, moi je suis pas claire dans mes propos. Il y a tous ces enfants qui viennent de milieux favorisés, qui ont une culture scolaire qui finalement est assez coïncide beaucoup à celle qu'on a en France, avec une importance de l'écrit. Et puis il y a tous ceux qui viennent de cultures où l'école est plutôt, pas forcément l'école, mais où en tout cas l'oral a une prédominance, et du coup qui comprennent pas nos codes à nous, ou qui sont en déphasage par rapport à nos attentes. Donc il y a ce double jeu qui se travaille dans les classes. Et
on peut poursuivre après avec le deuxième petit tour de table. La deuxième chose qu'on voulait leur demander, c'était si elles pouvaient partager avec nous des situations vécues sur le terrain de l'école, dans lesquelles elles auraient eu l'occasion d'apporter leur aide, des conseils, un partage de questions, donc avec des collègues, et qu'est-ce qui leur semble prioritaire à retenir et à transmettre sur l'accueil des enfants allophones.
Alors, moi, j'ai commencé vraiment à travailler autour de cette question quand je suis arrivée en REP+, parce que c'était le premier poste que j'avais où je restais de manière stable. Et avant, j'avais fait que des remplacements, donc c'est très difficile de mettre en place des choses quand on n'est pas longtemps sur une école. Et donc, là, sur cette école-là, avec mes collègues, un jour, lors d'une réunion, je m'en rappelle, on s'est posé la question, on se demandait à peu près combien d'élèves dans nos classes parlaient une autre langue que le français à la maison. Et le lendemain, on a fait un tour, tout le monde a demandé à ses élèves, et on s'est aperçu qu'à chaque fois, il y avait un ou deux élèves seulement dans la classe qui parlaient vraiment le français à la maison. Tous les autres parlaient français et une autre langue, ou uniquement une autre langue. Et on s'est dit, à partir de là, on va bien être obligé de prendre en considération cette donnée. Et on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, à ce qu'on pouvait mettre en place pour... À partir de ça, on a commencé par des ateliers d'éveil aux langues. Donc, on a réussi à mettre ça en place grâce au fait qu'en REP+, on a un maître supplémentaire, le dispositif plus de maîtres que de classes. Donc, on a un enseignant en plus par rapport au nombre de classes qu'il y a dans l'école. Et donc, c'est avec cette enseignante-là qu'on a travaillé sur ce projet. Et qu'on a mené donc ces ateliers d'éveil aux langues pour amener les élèves à prendre conscience de leur plurilinguisme. Et là, on a vraiment découvert des choses qu'on n'imaginait pas. Il y a des enfants qui se rendaient même pas compte, enfin qui ne se rendaient pas compte, qui parlaient une autre langue à la maison. Et c'est vraiment en les questionnant, en les faisant parler là-dessus, que eux-mêmes ont déjà pris en considération ce fait-là. Et on s'est aperçu aussi au bout de quelques mois de ces ateliers quotidiens que les parents, c'était quelque chose sur lequel les parents avaient énormément de retours. Les enfants étaient très réceptifs à ce dispositif. Et ça nous a, à nous, amené une plus grande confiance de la part des parents. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus facilement accès aux parents. On a des parents qui étaient vraiment un peu en retrait par rapport à l'école. Et le fait d'avoir installé ça, d'avoir mis en place ces ateliers, on a vraiment aperçu une différence, et les parents nous en ont parlé, donc on sait aussi que ça vient de là, parce que c'était un sujet de conversation pour eux, de venir nous parler de ces ateliers, de se proposer pour venir faire un partage autour d'une langue, des choses comme ça. Donc ça, pour nous, ça a été un premier point. Et cette année, en parallèle de ces ateliers d'éveil aux langues, on a mis en place autre chose, alors pas sur toutes les classes, mais sur ma classe, moi j'ai monté des ateliers de gestion des émotions, parce qu'on avait des gros problèmes de violence aussi dans ma classe, et on s'est aperçu que les enfants ont construit des liens entre les ateliers d'éveil aux langues et les ateliers de gestion de l'émotion, et qu'ils ont réussi à mettre des mots en partant des langues qu'ils parlaient sur ce qu'ils vivaient eux intérieurement. Par exemple, j'ai eu un élève qui m'a dit « Mais quand je suis en colère et que j'arrive plus du tout à parler, c'est parce qu'à l'intérieur de ma tête, je sais plus le français, l'arabe se mélange, je sais plus comment parler, j'arrive plus à parler parce qu'il y a tout qui se mélange. » Et des choses comme ça, il y en a eu plein, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et c'est vraiment des choses qui se construisent petit à petit, mais qui ont un effet bénéfique sur l'ensemble des apprentissages et surtout sur l'ambiance de classe. Enfin, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que les enfants d'eux-mêmes arrivent à construire des ponts donc entre ces deux ateliers. Et donc, on peut imaginer que par la suite, ils arriveront aussi à construire des ponts, et nous, avec eux, avec d'autres disciplines, avec les autres matières sur lesquelles on travaille à l'école. Donc voilà, c'était l'expérience que je voulais partager avec vous, parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément et pour lequel on a réussi à impliquer toute une école, et du coup je me dis que voilà.
Merci.
Du coup, moi aussi je vais partager avec vous un peu mes expériences justement sur la scolarisation des élèves plurilingues. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais fait mon mémoire, j'avais pu observer un élève qui arrivait tout juste en France. Et ce qui avait été assez fascinant durant toute cette année, c'est que lui était rentré dans la langue française par les interactions avec ses pairs, et notamment avec un autre élève qui, lui, n'était pas du tout rentré dans le langage, en fait. Et donc c'était assez marrant de voir qu'il s'était automatiquement tourné vers un autre élève. Qui lui aussi avait des difficultés de communication et d'interaction avec les adultes, avec les autres élèves qui parlaient très bien. Et en fait, tous les deux, alors que un parlait français à la maison, à l'école, et que l'autre parlait portugais à la maison et parlait français uniquement à l'école, que tous les deux, en fait, ils avaient vraiment construit leur langage au cours de leur première année de scolarisation, et que c'était grâce à ces interactions que lui était rentré dans la langue française, et dans la langue française de l'école, en plus. Et puis donc après ces questions, donc moi je me les pose toujours dans ma pratique. Et ce que j'essaye surtout de mettre en avant au quotidien, c'est de valoriser en fait les élèves par leur plurilinguisme, plutôt que de le considérer comme une difficulté. Parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappée quand je suis arrivée en REP+, c'est que souvent les collègues considèrent les élèves qui ne parlent pas français ou qui ne maîtrisent pas le français comme étant en difficulté. Du coup, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de montrer que, en fait, ils sont pas en difficulté, mais qu'il faut vraiment utiliser leur capital plurilingue comme un levier pour leur faire, pour les faire progresser, pour les faire entrer dans la langue française. Et pour l'anecdote, l'an dernier, j'avais donc une collègue qui venait d'accueillir dans sa classe une élève géorgienne qui s'était trouvée qui était forcément en difficulté, notamment pour la grammaire, la production d'écrit. Et elle considérait cet élève comme en difficulté. Elle n'arrivait pas forcément à trouver le bon angle d'attaque pour travailler avec elle. Au final, on a travaillé un peu toutes les deux sur ces questions-là, et on s'est rendu compte que la structure de la langue en Géorgie, en géorgien, est complètement différente de celle du français. Et du coup, il fallait vraiment partir de sa langue à elle pour pouvoir, la faire progresser, et du coup lui faire prendre conscience que non, elle n'était pas en difficulté. C'est juste que, étant donné que les deux langues sont complètement différentes, forcément, elle allait avoir des difficultés que d'autres n'auraient pas, et que pour répondre à ses besoins, il fallait passer par un autre chemin que l'aide particulière, la différenciation des fois qu'on va mettre en place pour certains élèves. Du coup, il fallait un peu repenser aussi la pratique enseignante face à des élèves qui ne sont pas en difficulté, mais qui ont juste, qui doivent faire face à une nouvelle structure de langue, une nouvelle structure grammaticale, syntaxique. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et qui me frappe encore d'ailleurs quand on se retrouve face à des élèves qu'on va considérer en difficulté, alors que pas du tout. Et du coup, cette année, moi, ce que j'ai mis en place avec mes élèves, ce que j'essaye de mettre en place avec mes élèves, c'est d'essayer de les valoriser, de les mettre en confiance en leur faisant, prendre conscience que c'est une vraie richesse et un vrai plus que d'avoir leur actif plusieurs langues. Donc, du coup, on fait beaucoup d'ateliers avec mes élèves sur chacun présente sa langue. Alors, ils peuvent ramener, soit ils peuvent parler librement dans leur langue, dans la classe, soit ils peuvent ramener des livres, des CD, des vidéos, des films. Et du coup, petit à petit, chaque langue prend sa place dans la classe. Eux se sentent aussi très à l'aise. Ils savent qu'ils ont le droit d'utiliser leur langue dans la classe. Et ça a débloqué beaucoup de situations. Par exemple, j'ai un élève qui était extrêmement timide, très, très... Il était tout le temps renfermé sur lui-même. Il parlait vraiment très peu aux autres. Et du jour où il a été autorisé à parler dans sa langue, j'ai eu l'impression d'avoir un autre élève devant moi. Et juste le fait de lui dire, mais tu vois, comme tu es là, quand voilà, là tu es en train d'utiliser la langue que tu as à la maison, je vois que tu es beaucoup plus à l'aise avec ça. Ce côté de ta personnalité, il faut que tu arrives à l'utiliser aussi dans la classe, en français. Et ça a débloqué beaucoup de choses. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, où je me dis, ce serait vraiment intéressant de pouvoir utiliser ce levier-là pour faire avancer les élèves qui sont en difficulté, pour le coup. Donc là, en Ulysse, c'est des élèves qui ont des troubles. Donc comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce levier pour les faire progresser, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent valorisés? Et donc ça va être, je pense, maintenant le fruit de mon travail d'enseignante.
Merci. Julie Sarah.
Oui, pour rebondir sur les deux témoignages de mes collègues, je voudrais dire effectivement que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un, deux, voire trois axes dans nos pratiques qui sont influencés très clairement de nos connaissances d'une autre langue étrangère ou de notre sensibilisation aux problématiques des élèves allophones ou qui ont des scolarisations un peu plus délicates, plus marginales par rapport à cette norme dont on a parlé qui en fait n'existe pas vraiment. Un de ces axes serait pour moi la remédiation, le statut de l'erreur quand on est face à des élèves allophones et qu'on a une connaissance de leur langue d'origine, on sait qu'elle se construit un peu différemment, on est peut-être en mesure de les aider à corriger les erreurs en français par le fait de la connaissance de leur langue maternelle. Par exemple, quand on sait que dans les langues arabes, l'utilisation des voyelles comme le E, A, U, I, ça n'existe pas. Et que oui, ben, du coup, à la prononciation, parfois, il y a des erreurs rien que dans le français de l'oral. Donc, dans le français de l'écrit, il y a aussi une répercussion. Bon, d'avoir quelques notions sur la construction des langues maternelles de nos élèves ou des langues parlées dans la famille, ça nous permet aussi de les aider dans la remédiation en classe. Ensuite, elles ont parlé toutes les deux de valoriser le plurilinguisme, le pluriculturalisme de nos élèves. Effectivement, ça, c'est des actions qu'on peut mener dans nos écoles. Moi, j'ai une école dans laquelle on fait beaucoup intervenir les familles, et notamment pour venir lire des contes aux élèves, que ce soit des élèves de maternelle, mais ça va jusqu'aux élèves du CM2. Il y a tous des projets sur les contes racontés. L'idée, c'est vraiment de valoriser ces richesses plurielles et ces cultures de chacun. Donc, elles viennent, les familles, sur des activités de conte, mais aussi sur des activités de lecture et sur des activités d'écriture. Et c'est des activités sur lesquelles nous, on peut rebondir en tant qu'enseignant. Quand on fait des petits projets, on peut se permettre de dire à nos élèves, oui, ben, ce mot-là, tu peux l'écrire dans cette langue, dans ta langue. Et puis, cette phrase, tu n'arrives pas à la formuler en français, ben, tu la formules dans ta langue maternelle. Et pourquoi pas avoir un poème avec plusieurs langues. Et ça permet d'inclure un peu tout le monde dans la classe, dans un projet commun où tout le monde se reconnaît. Dans cette valorisation aussi des différentes cultures, il y a aussi un moment qui me paraît important, c'est l'accueil des familles, rencontrer les familles de langues différentes pour leur expliquer aussi nos attentes, parce que parfois j'ai de nombreux collègues qui me disent, mais cet élève, il fait jamais ses devoirs, il a jamais appris ses leçons. Oui, mais à aucun moment on a vu avec ses parents qu'il fallait qu'il regarde le cahier avec cet enfant. Il y a plein de parents qui nous ont dit ben, finalement qu'ils regardaient, oui, le cahier de liaison, mais qui n'avaient pas pris l'habitude de regarder le cahier de devoir. D'ailleurs, ça n'existait pas, c'était pas comme ça dans leur pays. Il n'y avait qu'un seul cahier pour toutes les communications entre l'école et les familles. Et ils ne savaient pas qu'il pourrait y avoir deux cahiers. C'est plein de petites choses en termes de logistique qu'on peut aussi mettre en place quand on accueille les familles sur le fonctionnement de notre école. Et sur les codes qu'on a qui sont implicites pour nous, on se dit ben c'est tellement évident qu'on pense pas à les dire. Et ben pour certains, non, c'est pas évident. Donc et ça c'est valable pour les familles qui allophones, mais c'est aussi valable pour les familles qui sont éloignées du système scolaire. Donc moi c'est vrai que je fais beaucoup de ponts entre mes élèves allophones et les élèves qui viennent de cultures étrangères. Et puis les élèves qui sont en France, qui sont bien français, mais dont les familles sont tellement exclues de notre système scolaire qu'elles sont allophones par certains côtés dans notre fonctionnement. Et puis, il y a aussi un autre pont qu'on peut faire entre la langue de l'écrit, la langue de l'oral. Et moi, ça, c'est un peu le questionnement que j'ai actuellement en me rendant bien compte qu'il y a des élèves qui ont des compétences vraiment... brillante en oral, en français oral, qui arrivent à parler, à s'exprimer, à corriger leurs camarades. Et quand ils sont à l'écrit, ils sont complètement bloqués. Il y a des choses qui passent pas. Ils sont vraiment pas valorisés parce que notre système est tel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. J'ai l'impression qu'on a une culture scolaire qui a une prédominance sur l'écrit tout le temps et qu'on fait attention uniquement à la grammaire de l'écrit. On n'est pas là à remédier en règle générale le parler de nos élèves. Ça, on se dit, de toute façon, comment est-ce qu'on rend compte de ce moment parlé? Comment est-ce qu'on peut évaluer ce moment parlé? Et du coup, on n'accorde pas à l'oral la place qu'il mériterait. Et souvent, pour nos élèves allophones, quand j'étais en UPE des Arts, on se disait que la priorité, c'est quand même qu'ils puissent parler, qu'ils puissent comprendre les règles, qu'ils puissent communiquer avec ses pairs, comprendre le fonctionnement de l'école. Et donc là, on dit, là, nous, on mettait l'accent sur l'oral. Et puis quand on se trouve dans la classe ordinaire, ben non, on met l'accent sur l'écrit. Donc on est aussi un peu en porte-à-faux les uns par rapport aux autres. On n'a pas les mêmes objectifs. Et là, c'est vraiment qu'un questionnement pour le moment. Je me dis, comment est-ce qu'on peut remédier à ce malaise qui existe face aux activités orales de la classe ? Un nombre incalculable d'enseignants aimeraient faire des projets oraux et de dire ben, à la fin de ma journée, il y a 5 lignes d'écrit dans le cahier du jour, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment travaillé sur l'oral, on a fait un projet éphémère. Oui, mais comment on en rend compte? Comment on se positionne par rapport à nos collègues? Comment on justifie ce qu'on a fait? Alors, on le justifie par un projet pédagogique, par des lignes et des lignes pour se dire que par rapport vis-à-vis de l'inspection, on est dans les clous, vis-à-vis des programmes, on a fait ce qu'il fallait. Et puis en même temps, on a vécu un moment partagé très important qui a mis en valeur tous nos élèves qui sont un petit peu en situation parfois d'échec scolaire, qui ont du mal à réussir. Et là, on les a vraiment valorisés, ils sont rentrés dans la classe. Ils sont sortis d'une journée, que j'appelle journée éphémère, mais ce n'est pas vraiment éphémère, mais une journée d'oral où ils ont été valorisés pendant toute la journée. Et du coup, je me pose des questions aussi par rapport à ça.
Merci beaucoup. Je trouve que vraiment, tout ce qu'elles ont dit fait largement écho à ce qui a été dit à la fois ce matin pendant la conférence et cet après-midi lors de l'intervention... de Madame Lacombe, c'est ça? Et justement, l'idée de changer un petit peu de paradigme et de ne plus parler de difficultés, mais de particularités, je trouve que c'était très bien illustré là par ce que vous avez dit, où finalement on part de ces particularités et ça va des élèves et ça va enrichir non pas seulement ces élèves-là, mais ça va enrichir les autres élèves, les enseignants et toute la communauté scolaire de l'école, hein, que ce soit sur la question du statut des erreurs liées aux différentes structures des langues. Ça va faire progresser tous les enfants et ça va faire apprendre des choses aux enseignants qu'on va pouvoir réutiliser, ou que ce soit par rapport à se poser la question de l'éloignement par rapport de certains élèves et de certaines familles par rapport à la norme scolaire ou encore la question de l'importance de l'oral. Donc je trouve qu'on est vraiment dans cette perspective ici d'inclusion versus intégration comme ça a été présenté en tout cas en théorie. Il y a une autre chose que je voulais aussi souligner, c'est que vous avez aussi eu cette expérience personnelle et vous êtes beaucoup, soit vous avez vécu, soit vous êtes parti à l'étranger dans le cadre de vos stages, et ça fait aussi écho à ce que disait Monsieur Ebersold ce matin sur la question de l'ouverture à l'international, et c'est valable dès le début de la formation, hein, que l'ouverture à l'international permet effectivement de se décentrer et de voir des choses soit qui se font ailleurs, soit de se faire questionner sur sa propre pratique naissante et de remettre en question certaines choses. Peut-être qu'on peut déjà donner la parole à la salle.
Je suis enseignante en UPE2A à Oyonnax, et non tu vois, donc dans l'Ain. Et ça fait donc à peu près 10 ans maintenant que je suis sur cette zone qui est quasiment tout en REP, REP plus. Et j'ai le même problème que ce que tu as eu en fait avec beaucoup d'enseignants. On a un grand nombre d'enfants qui parlent très très mal le français, même en arrivant, en étant nés en France, qui arrivent en CE2, CM1, qui parlent toujours pas très bien le français. Et le conseil que les enseignants donnent le plus fréquemment, c'est de parler français à la maison. Et ça fait 10 ans que je lutte pour essayer de dire que ben, c'est peut-être pas la bonne solution. Il vaut mieux parler la langue dans laquelle on est à l'aise, affectivement. Mais c'est difficile en France. C'est ce qui a été fait pour les langues régionales. Enfin, moi, j'ai des grand-mères, arrière-grand-mères alsaciennes, bretonnes, et elles ont joué cette même carte de l'intégration qu'on leur avait demandé. Donc, pour que leurs enfants réussissent, elles ont arrêté de pratiquer leur langue, mais elles ont parlé le français. Et ça a démoli aussi dans la famille des relations affectives. Donc c'est vraiment un conseil qu'on entend très très souvent, et c'est difficile de lutter contre ça.
Oui, merci beaucoup pour ce témoignage.
Par rapport à ça, dans mon école, on a eu une fois un conseil d'une interprète que j'ai trouvé vraiment très bien. Elle a expliqué aux parents que le fait de leur parler français, si eux-mêmes, les parents, parlaient déjà pas très bien français, ça amenait souvent à ce que l'enfant n'ait ni une langue maternelle vraiment bien construite, c'est-à-dire qu'il parlait ils parlaient pas très bien leur langue, la langue d'origine des parents. Ils étaient pas non plus à l'aise en français. Et le fait qu'il y ait aucune langue qui soit vraiment bien installée, pour le coup, ça freine dans tous les autres apprentissages. Et ça, c'est quelque chose que les parents et je pense les enseignants aussi peuvent arriver à entendre, qu'il vaut mieux avoir déjà une langue, même si c'est pas la langue de l'école, qui soit bien installée. Et après, le français viendra après, plus ou moins rapidement, plus ou moins bien. Mais c'est que le fait qu'il y ait aucune langue qui soit installée, c'est encore plus problématique qu'il n'y ait que le français qui soit pas bien. Enfin.
Alors, c'est vraiment des problématiques. Alors, pour le coup, là, pour la communauté de formateurs que nous sommes, peut-être là où ça existe encore, parce que ceux qui sont déjà depuis des années ou des années comme moi, se dire, c'est pas vraiment, on entend encore ça. Oui, on l'entend encore, c'est la réalité, je l'ai entendu aussi. Et c'est peut-être aussi, ça peut être un objet de progrès. On se dit, c'est évident, mais voilà. Et je voulais aussi préciser par rapport ce que tu as dit, que tu as restitué la parole de cet interprète. Et dans une approche plus psy, hein, psychologique, psychiatrique, psychanalyse, et par les travaux de Marie-Rose Moreau en ethnopsychiatrie, où il est bien clair que si tout ce qui passe par tout ce qui est de l'ordre de l'affect et qui passe par la langue, si la mère ou le père ne transmet pas ses affects comme lui il les a reçus ou comme là où il est compétent pour le faire, etc., c'est pas seulement une rupture linguistique. C'est aussi des ruptures affectives qui peuvent être créées et créer des difficultés de cet ordre-là aux enfants. c'est un beau défi hein, de se dire est-ce que on peut entendre encore en France dans 2 ans, dans 3 ans, dire que parler français à la maison, c'est ce qui fait réussir l'enfant à l'école lorsque les parents ont une autre langue que celle de l'école.
Alors, il y a les enseignants, mais je voulais revenir sur... ça me paraît vraiment très important ce que vous avez noté sur le travail avec les parents, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui ont intégré qu'ils ne s'autorisaient pas à utiliser leur langue à la maison. Et je pense que là, nous, on peut travailler là-dessus. Hein, du coup, effectivement, quand on reçoit les parents, etc. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des témoignages il n'y a pas tellement longtemps de collègues plutôt de votre génération qui les parents avaient interdit à un moment donné de parler arabe, et ça a créé vraiment des catastrophes quoi. Elles sont capables d'en parler, elles sont capables de, notamment en termes de filiation, parce que je peux plus parler avec ma grand-mère quoi, c'est quand même terrible. Donc notamment une qui avait réappris l'arabe en phonétique pour pouvoir passer le bac en phonétique, vous vous rendez compte, enfin moi je trouve ça admirable. Voilà, il y a ça, puis complètement autre chose, effectivement, je pense qu'on a aussi une formation à faire et à peut-être à transmettre. Alors c'est vrai que moi je suis complètement monolingue, mais alors monolingue de chez monolingue, on n'est jamais complètement monolingue, mais bon, j'ai pas l'ouverture internationale que vous avez et puis cette richesse que vous avez, que je trouve magnifique, mais effectivement je pense que, déjà même sans connaître les langues, hein, si on a effectivement cette idée de cette ouverture à la différenciation, à se dire ah bah s'il parle comme ça peut-être que voilà, je pense que déjà rien que ça effectivement on peut être attentif à l'accueil et à construire à partir de ce qu'ils sont quoi, parce que autrement effectivement c'est bien si tout le monde peut effectivement être plurilingue quand on est enseignant du PE2A, mais je pense que tout le monde ne l'est pas forcément et qu'il y a quand même cette formation là à avoir sur l'ouverture aux langues quoi.
Et là, je dirais, c'est le par le biais des approches plurielles, justement, que ce soit les activités d'éveil aux langues telles qu'elles les ont présentées, sans parler différentes langues spécialement, on peut s'appuyer sur les activités qui existent pour éveiller à la diversité linguistique les enfants, tous les enfants, pas seulement les enfants nouvellement arrivés.
Oui, pour rebondir à ce que disait la collègue, c'est vrai que certains enseignants ont ce discours-là. Moi, ce que je leur donne comme conseil systématiquement, c'est de dire aux parents de parler de l'école, en fait. C'est pas de parler de la langue de l'école, mais de parler de l'école dans leur langue. Déjà, ça débloque pas mal de choses. Et ce que j'avais entendu dans une interview de Marie-Rose Moreau, c'était qu'elle s'excusait quand elle commençait ses équipes en ethnopsychiatrie. Elle commençait par s'excuser de ne pas parler la langue des parents. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé souvent quand les parents s'excusent en disant « je m'excuse, je parle pas bien la langue », je dis « non, mais moi, c'est moi qui m'excuse, je ne parle pas du tout votre langue, vous parlez beaucoup mieux votre langue que moi la vôtre pour cette notion d'égalité et de langue dominante et de langue dominée ». Je veux dire, on est l'institution, on a déjà toute l'autorité, l'expertise, on est les enseignants, on a tous les pouvoirs, si en plus on a la puissance de la langue, je dirais, ils sont complètement écrasés, les parents. Donc de se mettre en position basse vis-à-vis d'eux, ça... quelque part ça réactive leur fierté entre guillemets, mais c'est nécessaire qu'ils en soient fiers, parce qu'effectivement moi je sais quand j'ai commencé au CASNAV, j'étais appelé pour des évaluations dans un établissement et c'était un arabophone, et j'avais découvert qu'il y avait un anglophone, mais celui-là on me l'avait pas signalé parce que c'était pas un ENA, c'était un ENAF à l'époque, on disait des ENAF de luxe. Et c'est vrai que cette concurrence des langues, les anglophones sont rarement considérés, en gros on sait faire, mais les arabophones c'est plus compliqué. Et ça par contre ça persiste, même si on dit bon, il faut continuer à parler la langue, selon la langue c'est valorisant, je veux dire un élève qui est bilingue franco-anglais c'est super, et franco-arabe c'est la catastrophe quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est sur les représentations on a un grand travail à faire.
Je suis professeure de lettres et d'histoire en lycée pro et formatrice académique pour l'éducation prioritaire en Guyane. Et du coup, le statut des langues, il est un petit peu prégnant en Guyane, parce que effectivement, c'est formidable d'être bilingue franco-anglais, mais alors être bilingue Nengue, bilingue Kalinya, bilingue Mong, bilingue toutes les langues qu'on a en Guyane, déjà, c'est pas une vraie langue, c'est ce qu'on entend. c'est pas des vraies langues, ils sont pas structurés dans leur langue, alors ils peuvent pas apprendre le français parce que comme ils ont pas de grammaire, parce qu'ils écrivent pas, parce que alors qu'il y a une grammaire, oui, il y a pas d'écrit, c'est vrai, des fois c'est des langues orales, mais ça empêche pas d'être une langue. Mais tant qu'on n'a pas déconstruit ça sur ce que ça veut dire de parler français ou d'être français tout simplement, parce que finalement de l'autre côté de l'Atlantique se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être français quand on est en Guyane et donc quel est le poids du français. On trouve dans des établissements scolaires des règlements intérieurs qui interdisent de s'appuyer sur la langue, les langues maternelles, donc pas juste des enseignants qui, des règlements intérieurs qui disent que la langue officielle de l'école c'est le français et qu'il ne sera pas toléré, il sera même sanctionné d'entendre parler autre chose que le français. Voilà. Donc toutes ces, je trouve ça formidable hein, qu'on puisse avoir une jeune génération qui se pose ces questions-là et qui se sent pas remise en cause, parce que c'est souvent ça qui est perçu par les enseignants. Je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Si je les laisse parler dans une autre langue que la mienne, que celle que je maîtrise, je ne comprends rien. Et évidemment, en Guyane, il y a 30 langues. Alors oui, non, on ne peut pas parler les 30 langues qui existent en Guyane, c'est vrai. Mais est-ce que c'est très grave? Et est-ce que finalement, c'est ce qu'on dit souvent aux collègues, il y a des adolescents, parce que nous on travaille sur des plus grands, ont des stratégies de contournement pour ne pas être compris des adultes qui ont tout le temps existé. Donc là, bah, c'est plus facile pour eux, hein. Il suffit de parler dans leur langue pour qu'ils ne puissent pas être compris. Mais est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça empêche d'entrer en communication avec l'autre? Est-ce que ça empêche de les prendre en charge en tant que ce qu'ils sont, des sujets pensants et en construction? Je crois pas, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais je crois qu'il y a un effort national qui doit être fait sur le fait que on parlait avec l'intervenante précédente, enfin, elle nous disait qu'il y avait un hiatus, et le hiatus, il est très clair, entre l'école de la Troisième République, ce qui a fondé son développement, et l'école aujourd'hui du XXIe siècle, sauf qu'on n'en est pas vraiment sorti. On est encore sur des relents durkheimiens très très forts sur sur ce qu'on fait, et on parle depuis ce matin des inégalités, donc on les renforce par ces jeux de pouvoir entre les langues, de concurrence, en fait, finalement, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Non seulement on les renforce, mais si on s'appuie sur PISA, on les creuse. Et c'est interrogeant en tant que professionnel de l'éducation de se dire qu'on participe en fait à creuser des inégalités qui n'avaient pas besoin de nous déjà pour être, alors que c'est notre travail. Donc je crois que ces questions-là, en tant que formateur, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Comment on trouve des gestes professionnels qui aident à sortir de ce conflit éthique en fait des enseignants aux prises avec des publics divers.
Je travaille au CASNAV de Reims. Et justement, par rapport aux réflexions des enseignants qui conseillent aux parents d'oublier leur langue, moi, je donne comme explication, enfin comme conseil aussi, notamment en formation initiale, aux futurs enseignants, de bien distinguer les espaces. C'est-à-dire qu'il y a l'espace de l'école et il y a l'espace familial, qui est un espace privé, et qu'en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, on n'a pas à s'immiscer dans l'espace privé des familles.
Oui, je suis toujours formatrice de professeur des écoles à Versailles. Et j'aurais voulu savoir à quel moment de votre formation vous avez entendu parler de ces questions-là en dehors du mémoire. Est-ce qu'on vous en a parlé en didactique du français, en PSHS, en didactique des langues, éventuellement, je ne sais pas.
En dehors du mémoire, non.
Parce que je suis confrontée à la même chose. J'ai mis mon pied dans la maquette, si je puis dire, entre deux portes, en disant « je vais faire du FLE, du FLES, etc. » par les mémoires. Et par la didactique du français, sans que mes collègues m'entendent. Merci de ne pas le répéter sur tout le réseau des ESPE, mais on n'a pas d'offre de formation spécifique sur ce domaine-là. Voilà.
Dans l'autre sens aussi, c'est très difficile d'entrer dans le module de formation de l'ESPE. Nous avons pris contact avec l'ESPE dont nous avons fait une offre pour intervenir dans toutes les ESPE de l'Académie d'Aix-Marseille. Et c'est très très difficile d'entrer dans les modules de formation de l'ESPE où c'est assez obscur les chemins menant aux décideurs des modules de formation, même dans les modules transversaux.
Donc je suis IENASH en Dordogne. Comme tous les consensus qui ont l'air pour ce qui a l'air d'être le cas en ce qui concerne les langues, là j'aurais voulu, je suis pas tout à fait d'accord. Dans la mesure en particulier en Dordogne, il y en a beaucoup d'anglophones, de villages entiers qui vivent en autarcie avec des gens qui refusent les parents, je parle des parents, de parler la langue du pays dans lequel ils sont installés. Et on a des élèves qui en fait n'ont pas de projet parce que ils savent pas où, en gros, pour dire un peu familièrement, ils savent pas où ils habitent, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas s'ils vont rester. Les parents parfois repartent, reviennent, et donc on a des élèves qui sont dans les écoles et c'est très compliqué pour à la fois, je dirais, leur apprendre le français et aussi les inscrire dans un projet de vie. Donc je crois pas que ça soit toujours si simple. Et c'est vrai que comme beaucoup d'enseignants, j'ai travaillé 20 ans en région parisienne, à Gennevilliers en particulier, avec des publics donc effectivement souvent de langue arabe, et c'est vrai qu'on a aussi nous relayé à une époque le fait qu'il fallait parler français à la maison, que c'était important, que c'était comme ça qu'on pouvait après mieux le parler à l'école. Donc bon, après on peut revenir là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est il y a la langue, mais il y a aussi derrière la culture, et souvent pour les enfants plus ou moins jeunes, qui peuvent arriver en France donc avec une culture, par exemple, qui arrive du Maroc, d'Algérie, je donne l'exemple, ou d'Afrique noire, on a un problème, je dirais, de trahison. C'est-à-dire que à la fois l'enfant, en apprenant le français, en apprenant à lire, par exemple, avec parfois des parents qui ne savent pas lire, s'inscrivent dans une autre culture, et ils ont cette impression de trahison, et parfois les familles ont aussi l'impression qu'il y a une espèce de trahison par rapport à la culture. Moi, j'ai assisté à des choses assez fulgurantes dans mon bureau à l'époque où j'étais directeur d'école, où après avoir longtemps travaillé avec des familles, avec des enfants, on avait la maman qui s'est retournée vers son fils et qui lui a dit: bon, eh bien, tu peux apprendre à lire. Donc il y avait un travail qui s'était fait, et là on était à la fois dans la reconnaissance et justement dans le fait que on ne trahissait pas sa culture et on ne trahissait pas sa famille en apprenant à lire en français. Et donc je crois que c'est important aussi.
Pour revenir sur certaines particularités langagières des élèves, nous sur le Rhône, on constate de plus en plus des migrations qui sont très zigzagantes. Et on voit des élèves qui arrivent après avoir été migrés par exemple d'Afrique, avoir été scolarisés en Italie, avoir été enseignés dans une langue, arriver dans un autre pays où on leur demande une autre langue, où ces élèves nous disent: mais celle-là aussi, va falloir que je l'oublie. Donc on voit de plus en plus que la langue de scolarisation, ça devient une langue très instrumentalisée, et que c'est parfois difficile de permettre à ces élèves de s'inscrire en fait dans un parcours linguistique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si certains ont des clés.
Donc je vais rebondir sur les deux précédentes réactions. Effectivement, des enfants qui arrivent qui sont originaires d'Afrique du Nord, qui passent par l'Italie ou l'Espagne, on se retrouve avec des enfants qui ont plusieurs langues et qui sont en situation de bilinguisme ou bientôt trilinguisme, mais en ayant un volume de vocabulaire très très léger, y compris dans leur langue maternelle, c'est-à-dire celle qui est parlée sans doute dans la sphère privée. Voilà, donc c'était juste pour rebondir sur l'importance, ce que vous avez dit tout à l'heure, d'inciter les enfants en famille à parler la langue de la famille, de manière à avoir une grammaire, une syntaxe suffisamment étayée pour ensuite entrer dans une autre langue, parce que je crois qu'on passe d'abord par sa langue personnelle bien construite pour ensuite rentrer dans les autres langues.
Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit point sur la formation et les espaces pendant lesquels on pouvait éventuellement partager, échanger ces choses-là. Le fait que vous disiez que la nouvelle génération s'autorisait à faire des choses dans les classes et tout ça, c'est pas forcément facile, hein. Au début, c'est aussi sous couvert justement de l'expérimentation qu'ils mettent en place par rapport aux mémoires. Mais on a souvent ces questions: mais est-ce qu'on a le droit? Mais si l'IEN vient dans ma classe et que je fais de l'éveil aux langues, ou alors que j'encourage les parents à venir participer dans la classe et parler dans leur langue, etc.
Est-ce que il va pas y avoir une sanction, etc. Donc c'est pas forcément évident. Et justement, le fait que ils fassent leur travaux de recherche et leur mémoire, et qu'ensuite on ait ces espaces lors des jurys, notamment qui sont mixtes, et on est amené à solliciter des collègues, soit IEN, soit conseiller pédagogique, soit formateur de terrain, qui sont pas spécialement spécialistes de ces questions-là et qui sont tuteurs, par exemple, de l'étudiant. Et du coup, on va avoir un espace pour discuter avec eux sur ces questions-là. Ils auront lu le mémoire. Voilà. Donc, c'est des espaces qui sont importants, de même que le tutorat mixte, en tout cas, tel qu'il a été mis en place sur l'Académie de Lyon, où effectivement, chaque étudiant alternant, donc dans sa deuxième année de master, qui est en responsabilité 2 jours et demi par semaine, se voit attribuer deux tuteurs, un tuteur SP et un tuteur de terrain, qui sont censés l'accompagner sur le terrain et partager avec lui sur l'ensemble de sa pratique et de ses difficultés. On reviendra beaucoup demain, notamment lors d'une présentation que l'on va faire sur un petit projet exploratoire au sein de la circonscription de Saint-Fons. Donc beaucoup des questions qui ont été évoquées cet après-midi seront réévoquées demain à travers la présentation des premiers résultats de cette petite recherche. Donc merci beaucoup. On va s'arrêter là pour pouvoir respecter le timing.